Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs, et merci de nous rejoindre une fois encore pour les répliques du Nouveau Conservateur. C'est une émission qui s'installe, j'en ai des témoignages, je vais en reparler, par des messages. Alors, j'ai souvent dit que cette émission d'une heure, de 16 à 17 heures, est un peu trop courte pour qu'on prenne de surcroît des messages, mais qu'on peut en envoyer, j'en ai reçu. Nous allons y revenir au cours de cette émission qui est à titre principal consacrée au carême. Je l'ai intitulé « Le renouveau nécessaire du carême » et de fait, il est tellement nécessaire qu'il ressaisit peu à peu les cœurs. Ça a une prodigieuse portée et nous allons en parler puisque l'équipe est au grand complet. D'abord avec Guillaume de Thieulois.
Bonsoir Paul-Marie, bonsoir aux auditeurs.
Voilà, cher Guillaume, vous êtes le directeur de la publication. J'ai rectifié l'autre jour. Nous faisons équipe. On peut citer le troisième, parce que vous êtes directeur de la publication et de la rédaction, et il y a un troisième personnage qui travaille beaucoup et qui nous a permis de réussir. Absolument. Ce n'est pas facile. Le passage du trimestriel au mensuel, qui est Christophe Oren. Nous remercions beaucoup, que beaucoup ont connu peut-être quand il était notamment au PCD, à l'époque où il y avait un peu de... L'équipe au PCD s'est un peu passé, hélas, hélas, trois fois hélas. C'est d'ailleurs une très bonne chose que nous parlions du carême aujourd'hui, car tout le monde s'en est aperçu, en tous les cas pour ceux qui sont en région parisienne, nous sommes en train de tourner la page de l'hiver et nous marchons vers la promesse de Pâques en ce 25 février, 26 pour la rediffusion de demain. Il fait chaud, il fait beau et on a l'impression de sortir d'un hiver terrible. Vous vous souvenez, mon cher Pierre Lours?
Bonsoir, Paul-Marie Couteau, bonsoir aux auditeurs.
Je profite pour vous annoncer, mais vous êtes un vieux de la vieille. Vous êtes toujours là, vous n'êtes pas comme le patron, vous êtes là régulièrement. Pierre Lours, qui est avec moi et qui participera, bien entendu, à l'ensemble de l'émission, avec le père François-Xavier de Guibert.
Qu'on a connu sous d'autres casquettes.
Qu'on a connu comme éditeur, ce que vous êtes aussi, Guillaume, d'ailleurs. Absolument. Un éditeur flamboyant qui s'est retiré il y a quelques années, pas loin de 10 ans, et qui est devenu prêtre près de Dijon. Et nous allons l'avoir au bout du fil. Ça, je pense que ça rappellera beaucoup de choses, le nom de François-Xavier de Guibert. Et avec lui, j'ai choisi de parler avec lui, parce que nous avions eu des conversations, jadis et naguère, sur le sujet. Du baptême, il va nous rejoindre dans quelques minutes. Oui, je disais que nous sortons de l'hiver, et c'est presque un symbole, parce que nous sommes dans un hiver terrible. Non seulement l'hiver a été terrible du point de vue du froid, il a commencé à faire froid à la fin du mois de novembre. Vous vous souvenez, on a eu des premiers froids, et on a eu des intempéries sans fin, beaucoup de neige d'ailleurs, ce qui dément les bruits sur le réchauffement climatique d'origine humaine. Vous en avez peut-être entendu parler, des bobards qui circulent. En réalité, il fait froid l'hiver, très froid, et il fait chaud l'été, voilà. Et il fait même chaud aujourd'hui pour annoncer le printemps, ce qui est une bonne chose, et nous introduire au carême, qui a commencé en fait il y a une semaine exactement. Je témoigne d'ailleurs que le renouveau du carême est d'ores et déjà acquis, parce que ça fait 2 années que je vois des, en tous les cas à Saint-Germain-des-Prés, je ne sais pas vous Guillaume, je ne sais pas vous Pierre, mais je vois des églises pleines pour le carême, et spécialement, on va voir pourquoi, parce que je crois, plus encore que la pratique dominicale, la pratique des fêtes qui ont un sens, je ne dis pas que le dimanche n'a pas de sens, mais surtout, mais enfin, bref, le carême a un sens profond pour les jeunes d'aujourd'hui, noyés dans une civilisation noire dont je voudrais justement que nous parlions un peu. Alors, le Nouveau Conservateur sort un numéro, je l'avais annoncé ces jours-ci, sur les élections municipales, principalement sur la question de la subsidiarité, de l'organisation territoriale, du renouveau nécessaire, nous en parlions la semaine dernière, de la participation des citoyens. Dieu sait que je ne sanctifie pas les élections. Mais là, cette fois, les élections communales, municipales, elles sont importantes.
C'est des élections d'Ancien Régime.
Et oui, parce qu'on a toujours voté sous l'Ancien Régime. Bravo, Guillaume. Oui, et il faut continuer. Mettre aux voix à la tête de l'État, ça, j'ai toujours pensé que c'était une folie.
C'est discutable, très discutable.
C'est une folie, Guillaume. Et la preuve en est faite, d'ailleurs, depuis presque les débuts de la Ve République. Mais en revanche, le maire, les conseils municipaux, l'engagement qu'on peut avoir là où nous sommes, c'est ça la subsidiarité. À taille humaine. Il y a un de nos amis qui s'appelle Hervé Juvin, qui a lancé un parti qui s'appelle les Localistes. Oui. C'est tout à fait sa philosophie. Il faut agir là où nous en sommes et réinventer ou en tous les cas défendre notre civilisation là où nous en sommes. J'en profite pour faire un coup de pub. Marche assez bien les conversations qu'Hervé Juvin m'a réservées sur TVL et qui sont diffusées ces jours-ci. Voilà. Et nous préparons un autre numéro sur la démographie.
Ça sera à propos d'hiver, il y a un hiver qui est beaucoup plus grave que la neige. C'est l'hiver démographique.
C'est l'hiver démographique. Alors, on le prend sous tous les angles. Guillaume, je le dis devant tout le monde, je n'ai pas encore donné mon journal parce que je veux rajouter, je me suis aperçu il y a deux jours que la démographie dont nous allons traiter dans le numéro qui vient, pas celui qui sort ces jours-ci, c'est bien entendu la subsidiarité et les questions d'engagement municipal, d'élections municipales corrélativement. Mais le prochain, la démographie, c'est un sujet vraiment énorme. Mmh. Et on ne l'a pas épuisé sur un sujet important. C'est la lecture que l'on peut faire des conflits actuels à travers les aspects démographiques. C'est ce que je rajoute à mon journal, c'est pour ça que je ne voulais pas envoyer hier, je dis devant tout le monde. L'Ukraine, j'ai regardé ça, l'Ukraine n'a même plus 30 millions d'habitants. Et certains disent 26, alors qu'elle en a eu 52 millions en 91 au moment de son indépendance. Alors certes, elle en avait perdu beaucoup parce que c'était un pays invivable, tellement livré à la prévarication, qu'elle avait déjà même plus 40 millions avant la guerre, tout au moins l'opération spéciale déclenchée par Poutine. Je sais pas, il paraît qu'il faut dire Epstein, donc moi je dis Poutine ou Poutain, ou je ne sais pas. Enfin bon, Poutine. Et Epstein. C'est un indicateur, parce que ça fait l'anniversaire en ce moment, ces jours-ci, de l'intervention, l'opération de l'armée russe en Ukraine, pas du tout une invasion, c'est à l'est de l'Ukraine, qui a gagné, qui a perdu. En tous les cas, démographiquement, l'affaire est jouée. Une population qui n'a plus qu'entre 25 et 30 millions d'habitants, après en avoir eu 51 ou 52 millions 25 ou 30 ans plus tôt, c'est une population qui est très difficile de faire vivre, Pierre Lours.
Alors ça, c'est le côté quantitatif de la population.
Oui.
Mais il y a aussi le côté qualitatif. Et il y a les pertes démographiques, mais il y a les pertes anthropologiques de notre époque. L'esprit de où est-il ? L'âme, où est-elle ? Les corps, comment sont-ils ? Vous voyez ? Ça, c'est très important.
Mais pour ce qui concerne l'Ukraine, excusez-moi, là, on peut peut-être amaudir un peu ce que je viens de dire, parce que pour les Ukrainiens qui restent, alors très souvent, c'est les plus âgés, parce que les jeunes sont soit partis, soit hélas, beaucoup sont restés sur le carreau, il faut bien le dire. Mais l'esprit national, j'ai peine à dire ça, ukrainien, c'est quand même beaucoup ravigoté.
Absolument.
Donc maintenant, il faut compter avec ça. Il ne s'agit pas de faire de la défense.
Je pense qu'il faut aussi nuancer sur la partie démographique. Emmanuel Todd a écrit un bouquin sur la défaite de l'Occident à propos de cette histoire russo-ukrainienne. Et il disait la Russie avait une petite fenêtre de tir. Du point de vue démographique, dans 10 ans, ça sera fini. Et c'est aussi une partie, ça fait partie de l'équation.
Parce que la Russie, vous avez raison, perd elle aussi des habitants. Ça. Beaucoup moins, ça flotte au-dessus de 140 millions d'habitants, ce qui est très peu pour un pays d'une telle superficie, ce qui est aussi une faiblesse de la Russie.
Absolument.
Il faut dire les choses telles qu'elles sont, même si on veut essayer de contrebattre la propagande anti-russe, il faut aussi dire les choses. La Russie a un talon d'Achille, qui est une démographie assez faible, et qu'elle n'arrive pas à regresser, malgré les politiques de Poutine depuis 20 ans à peu près.
Ouais.
Bien, alors j'ai dit, pardon d'être long, mais j'ai dit que je ne répondais pas aux questions posées par les auditeurs en cours de route, mais je réponds à quelques-unes. Alors d'abord, un auditeur me dit, il n'est plus question dans vos émissions, alors que c'était le cas auparavant, de la monarchie. Ah, c'est vrai, nous n'avons pas eu d'émission sur l'actualité, pourtant elle n'est pas mince, la question royale. Je ne veux pas non plus l'inclure systématiquement dans le carré d'or de ce que nous avons appelé le conservatisme ou le réflexe ou l'urgence conservatrice avec Guillaume, puisque dans ce carré, il y a d'abord le christianisme, la doctrine sociale de l'Église, la chrétienté, comment dire, nous préférons le mot chrétienté au mot occident, nous autres, bon, c'est une question de vocabulaire. Il y a évidemment aussi, ça va sans dire, l'aspect souverainiste, qu'on le décline en indépendantisme ou en nationalisme, ce sujet, je vais dire quelque chose, tiens. Il y a un aspect gaulliste, qui est un peu la synthèse de tout, et puis il y a un aspect... il y a un aspect traditionnaliste, c'est-à-dire royaliste. Mmh. Bon, on a aussi ça dans notre... Nous avons quand même publié, je crois, le testament de Louis XVI récemment. Mmh. Et peut-être qu'on reprendra un peu dans ces émissions ou dans le Nouveau Conservateur, cette actualité royale qui, vous avez raison, cher auditeur, ne doit pas être négligée. Mais enfin, nous avons beaucoup d'ouailles. Hein, il faut aussi réactualiser la doctrine sociale de l'Église, que nous faisons beaucoup. Il faut aussi... réactualiser le combat souverainiste et y inclure, bien sûr, c'est sa troisième composante, la dimension identitaire, qu'on a beaucoup trop oublié, qui fait pourtant partie de ce que j'ai appelé le trépied souverainiste, aussi bien que la souveraineté nationale à l'extérieur et la souveraineté de l'État à l'intérieur. On me signale aussi que j'ai été très mou en face de Michel Onfray lorsque Éric Mourillot m'a proposé un débat avec Michel Onfray. Oui, je sais, on me le dit beaucoup, j'ai fait profil bas, c'est à dessein, et ces conversations seront prolongées d'ailleurs sur TVL avec Michel Onfray. C'est à dessein, je pense que son souverainisme est intéressant et je ne voudrais pas établir trop de conflits, bien qu'il y en ait un énorme. Je ne sais pas s'il a vraiment compris ce que je voulais dire quand je lui dis que l'espoir n'est pas dans mes catégories, mais plutôt l'espérance. Je crois qu'il n'a pas vu la différence. Et sur la transcendance, je crois que mes deux interlocuteurs, aussi bien l'un que l'autre, ne voyaient pas très bien de quoi je parlais. Donc je préférais être d'une douceur, au fond, toute française. Richard de Sèze me signale que j'ai fait une grosse erreur la semaine dernière. Pardon. J'ai parlé de Nadine de Rothschild en lieu et place d'Ariane de Rothschild. J'ai d'autant... Alors, pardon pour Nadine de Rothschild, c'est d'autant plus contrariant que ces deux femmes se sont attaquées, y compris devant les tribunaux. Donc, je parlais d'Ariane de Rothschild, on en parlera peut-être tout à l'heure à propos des papiers Epstein. Aussi, une question, et plusieurs questions sont nées de ce que nous disait notre ami François Martin, autre vaillante plume du Nouveau Conservateur, et qui lui aussi, l'Al-Qaïda, s'il est... à la fois chrétien, un peu traditionnaliste, bref, passons. François Martin, très souverainiste, parlait de plusieurs millions, ce qui est en effet un peu excessif, d'Israéliens qui quitteraient Israël. Alors c'est beaucoup, mais je réponds à l'auditeur qui me chicane sur le sujet que une étude de la Knesset, du service de documentation de la Knesset, qui est même une étude d'opinion, parue, je crois, dans le Parisien du 22 octobre, quelque chose comme ça, il faut que je retrouve la date, quelque chose comme ça, dernier, signale qu'il y a eu aussi un petit documentaire de France 24 sur le sujet, que 27% des Israéliens d'aujourd'hui songent à quitter Israël. 27% pour un pays de 9 600 000 habitants, j'ai vérifié le chiffre, c'est tout de même assez énorme. Alors, je ne pense pas que envisager de quitter un pays se traduit immédiatement dans les faits. Et puis, il y a la compensation, une source assez tarie d'ailleurs, de ceux qui font l'alia, merci Guillaume, c'est-à-dire qui viennent en Israël. Qui ne doivent pas être de la même eau. Ceux qui veulent partir, c'est plutôt les Israéliens de gauche qui ont un tempérament plus pacifiste. Pour une fois qu'il y a un endroit au monde où la gauche est pacifiste, signalons-le. Mais ça fait en effet, le fait est, un problème de plus. Et quand je parlais de l'Ukraine sous l'angle démographique, il faut peut-être aussi envisager le conflit, je mets ça dans la joue à mon journal, Guillaume, le conflit, l'avenir du conflit au Proche-Orient, sous cet angle-là, des déperditions démographiques importantes en Israël. C'est ce que veut dire François Martin, et c'était une de nos auditrices, ne doit pas s'alarmer que nous ayons abordé ce sujet. Ensuite, il y a eu aussi des commentaires sur, alors divers et variés, sur l'abus que nous aurions fait du mot fascisme. Je m'aperçois que nous ne sommes pas seuls, y compris sur Radio Courtoisie d'ailleurs, à avoir utilisé le terme à propos du fascisme de gauche. D'ailleurs, le fascisme vient souvent de gauche. Hein. Le national-socialisme, il n'était pas national, il était impérial, mais il était très socialiste, très social. Et Göring a même dit, a même parlé du socialisme intégral, sans parler de l'appartenance longue de Mussolini au socialisme. Et les réseaux, les faisceaux italiens nés aussitôt après la guerre étaient en grande partie composés de dissidents du Parti Socialiste. Donc, quelqu'un m'a fait une objection, je le cite parce que tout le monde le connaît, c'est Valentin Gore. Sur le moment, j'ai pas tellement compris ce qu'il me disait, mais il m'a dit, il faut pas parler de fascisme, en raison, il vaut mieux parler de communisme. Ça m'a fait songer à quelque chose. Peut-être que certains d'entre vous, très doctes, très érudits, connaissent l'œuvre d'Ernst Nolte, qui a défrayé la chronique dans les années 90, dans les dernières années du 19e siècle, parce qu'il a expliqué le nazisme en faisant une réaction au communisme russe, à la révolution de 17. Et finalement, quant à savoir s'il faut mettre le fascisme dans le communisme ou dans le communisme dans le fascisme, c'est pas si bête de parler plutôt de communisme. D'abord parce qu'en l'occurrence, évidemment, on en parle à propos de l'ineffable monsieur Mélenchon, qui a été longtemps membre de la Ligue communiste révolutionnaire, ou non d'ailleurs, oui OCI, je crois que c'est ça.
OCI dans son cas.
OCI, enfin, il a été trotskiste.
Il a été trotskiste.
Alors Trotsky, c'est un communiste. Et au fond, on peut dire qu'il y a du communisme aussi, et dans le nazisme, et dans le fascisme, première manière en tous les cas. En tous les cas, il y a du communisme dans la violence, et où il y a de la violence dans le communisme. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, quelqu'un m'a envoyé, ça je n'ai pas pu l'apporter, puis je ne sais pas si ça se montre à l'écran, mais en 56, à l'automne 56, quand un soulèvement populaire s'est dressé contre l'occupation soviétique à Budapest, presque tous les jours, l'humanité stigmatisait le soulèvement fasciste. C'est extraordinaire. Eux-mêmes mettent tout dans le même sac. Alors ce mot, évidemment, est un maniement, nos auditeurs ont raison, d'un maniement très, très délicat. En tous les cas, il y a de la... Il y a de la violence et peut-être faut-il faire attention à ne pas parler de fascisme trop vite, ce que fait d'ailleurs M. Mélenchon, et même d'autres. Mme Royal a parlé de nazillon, l'humanité a parlé de nazillon, ça leur revient sans cesse, à propos de ce pauvre Quentin qui était, alors, je ne sais pas s'il était monarchiste ou pas, il aurait adhéré à l'Action française en tous les cas, d'après l'Action française.
D'après ce que j'en sais, il a participé à des réunions de l'Action française, je ne sais pas si lui-même était militant de l'Action française.
Vous l'avez entendu dire, Pierre Lourdes, ça, non ?
Non.
Non.
Non, mais peut-être, il a, oui, certainement, de toute façon, c'était sans doute pas, quand on regarde son physique, son regard, etc., on voit bien que c'était pas un Hervi.
Oui, on voit ses origines péruviennes, d'ailleurs.
On sent que c'est un homme, un garçon, oui, avec beaucoup de sensibilité, générosité, apparemment. Enfin bon, si le physique reflète souvent l'esprit, non, dire que c'est un Hervi, c'est complètement ridicule.
On peut pas...
Mais tous ces mots sont des mots polémiques. Ce ne sont plus des mots qui véhiculent un sens. Ce sont juste des armes pour atteindre l'adversaire. C'est pitoyable. C'est pitoyable.
Puisque je citais Valentin Gore, je recommence. Il a publié, je crois, sur le fil de Boulevard de Valeurs Actuelles. Merci Pierre. Un entretien avec le sénateur Étienne Blanc, sénateur du Rhône, qui a expliqué pourquoi il a rendu hommage samedi dernier. Vous le connaissez sans doute, Guillaume.
Oui, j'ai beaucoup d'admiration pour lui.
Vous connaissez bien les sénateurs, et vous aimez bien Étienne Blanc. Il a participé, il se lamentait qu'il n'y ait pas plus de monde d'ailleurs, entre 3 et 4 000 personnes, à cette... enfin, ils ont été terrorisés. Ce qui me fait peur, c'est la terreur, là, maintenant. Hein,
oui, absolument.
Il faudra que nous en reparlions. Je pense qu'on va en reparler mercredi prochain. Quel que soit le nom, c'est la terreur qui nous pend au nez. Et surtout, en cas de conflit né de la prochaine élection. Alors, on entre dans une année, et peut-être dans plusieurs années, où la terreur va rôder. Elle a déjà commencé. Hein. On voit ça sur Frontières, notamment, si vous regardez nos amis de frontière, il y a un entretien d'un ancien, d'un repenti de la garde, de la jeune garde, qui était friand. Il dit, on arrête les gens, on contrôle leur portable pour voir s'ils sont affiliés, quand on a des doutes, à un groupe de droite. D'ultra-droite, oui, il dit. Et s'il n'est pas, bon, on le laisse passer. Il y en a un qui a d'ailleurs qui avait attiré les foudres d'un petit gang mélenchoniste, là, enfin jeune gardiste, parce qu'il avait un drapeau bleu-blanc-rouge sur son sac. Bon, ils ont fini par comprendre que c'était un militaire. Alors évidemment, ils l'ont relâché. Ça va pour cette fois-ci. Mais quand il y a des choses compromettantes dans les portables, d'abord, on les prend parce que ça donne des renseignements. Après, je ne sais pas, on tripatouille les portables pour savoir avec qui les gens arrêtés dans la rue. Arrêtés dans la rue, les suspects arrêtés dans la rue, c'est-à-dire qu'ils font la police. Voilà.
Avec la bénédiction des pouvoirs publics, manifestement.
Avec la bénédiction des pouvoirs publics et de Sciences Po. Qui allume, alors là vraiment cette école est devenue inadmissible, qui allume le feu chaque fois qu'il le peut, mais je voudrais bien savoir ce qu'il y a derrière.
Sciences Po de chambre.
Sciences Po de chambre, mais c'est pire que ça. Il faudra savoir, mais on va en parler mercredi prochain. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces violences et ces terreurs? Je pense que ça intéresse beaucoup certains oligarques supranationaux que la France plonge dans la terreur. Ça fait passer beaucoup de choses parce que tout le monde est terrorisé. C'est toujours la stratégie de la peur dont vous nous avez parlé à plusieurs reprises.
Toujours la même chose.
Toujours la peur.
Là, on a peur. On fait la peur par la droite, on fait la peur par l'extrême gauche, par l'extrême droite, et comme ça, au centre, on essaye de rassembler tous les ouailles qui ont tellement peur, qui viennent se protéger sous les ailes soi-disant.
Et qui acceptent l'euro numérique.
Ben voilà.
La guerre en Ukraine, l'armée européenne, la Covid, exactement, nous sommes bien d'accord.
Napoléon disait que la guerre est un art simple, tout d'exécution. Je crois que la politique est un art simple, tout d'exécution. C'est des grosses ficelles.
Absolument.
Au fond, c'est des grosses ficelles. Oui.
Mais oui.
Mais enfin, c'est pas une raison pour ne pas les décrypter.
Non.
Parce que tout le monde ne les voit pas, ces grosses ficelles. Oui. Surtout quand on regarde le journal téléguidé. Le télévisé, pardon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors, cette montée de la violence, d'ailleurs, est à mettre en relation avec les assassinats que nous avons connus et que nous connaîtrons sans doute plus tard. Il y a celui, évidemment, on ne pouvait pas ne pas lui rendre hommage en commençant cette émission, bien qu'elle s'avance déjà pas mal, à Quentin de Ranque. Mais il y a aussi les assassinats, souvenez-nous, d'Énessé, Marleix, etc. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, est discuté un texte terrible qui porterait la législation française très en avant dans l'euthanasie, plus que d'autres pays qui le pratiquent depuis longtemps et qui songent d'ailleurs à revenir en arrière, tellement les conséquences sont effrayantes. Il y a une culture de mort, je répète Jean-Paul II, qui est omniprésente. Et la mort de ce jeune homme est assez emblématique d'un passage à la mort, si vous voulez.
Et la clé, c'est de ne pas avoir peur de cette culture de mort, de ne pas avoir peur de la peur.
Voilà.
Et voilà, c'est la clé.
Ne pas avoir peur de la peur. Ne pas avoir peur, voilà. Revenons toujours à Jean-Paul II et aux paroles du Christ. Alors, nous voulions faire un préambule, mais il ne reste plus beaucoup de temps, mon cher Pierre. J'ai beaucoup trop parlé, comme d'habitude, sur l'affaire Epstein. Mais elle n'est pas sans lien, parce qu'on en découvre tous les jours. Nous allons publier, je crois, dans le Nouveau Conservateur, des extraits de morceaux magnifiques que vous m'avez envoyé hier, Pierre. Une petite vidéo à laquelle je renvoie nos auditeurs, de Jean-Dominique Michel. Je crois qu'on la trouve assez facilement.
Oh ben sur YouTube, vous tapez Jean-Dominique Michel, c'est un anthropologue suisse.
Une vidéo de 55 minutes, bouleversante, du début à la fin. À la fin, d'ailleurs, il pleure. Il fait une prière et il pleure parce qu'il est comme ces sénateurs qui ont été admis à regarder tous les papiers déclassifiés, qui ne sont pas tous les papiers Epstein, mais au moins ceux qui sont déclassifiés et qui n'ont pas été caviardés. Je ne sais même pas s'ils n'ont pas accès à l'ensemble des papiers déjà obtenus, parce que je crois que le ministère de la Justice américain ne sait pas très bien quoi faire des autres. Et c'est une grande proportion encore à paraître. Mais il y a un sénateur qui s'est mis, on les met dans les petites salles parce qu'ils ne doivent pas prendre de notes. C'était pareil d'ailleurs pour le traité de la Constitution. Ouais. Les députés, on avait le droit de voir le traité de la Constitution, mais on n'avait pas le droit de prendre de notes. Bon, alors on est dans une petite salle, on ne prend pas de notes, mais on lit. Et je pense que les sénateurs et les représentants des États-Unis sont aussi admis dans leurs chambres respectives, la Chambre des représentants et le Sénat, à regarder l'ensemble des papiers. Eh bien, il y a un sénateur qui a vomi, effrayé par ce qu'il voyait. Il a vraiment vomi sur place.
Bah, on est quand même dans une affaire où on a bien sûr de la pédophilie, mais on a de la torture, on a du cannibalisme. Enfin, c'est absolument, ça défie toute imagination, tout entendement. Et toutes ces incriminations, tous ces crimes commis par les grands de ce monde, les gens qui nous gouvernent. Pour une large part.
Pas tout, c'est beaucoup le monde anglo-saxon, hein. C'est beaucoup le monde protestant.
Ah bah,
hein.
Oui,
c'est la Norvège qui est le pays le plus mouillé, au fond.
Mais, voilà, mais en
tout
France
le monde
aussi.
Est mouillé, l'ancien Premier ministre, qui est en train de mourir d'ailleurs.
En France aussi, puisque Epstein était quand même à Paris, il avait un appartement au
22
avenue Foch, et donc il y était très souvent. Donc la France est aussi compromise. Contrairement aux propos de Macron.
Parce qu'il y vivait.
Ben oui.
La France est une plateforme. C'est d'ailleurs pourquoi c'est en France que le siège le plus important de la CIA, de tous les sièges, postes de la CIA au monde, le plus nombreux, est à Paris. Oui, pour contrôler, il faut être à Paris. Voilà. On garde encore ce rôle de plateforme.
Bien sûr.
Mais la Grande-Bretagne l'est. Et puis, il y a une dimension que je signalais la dernière fois. Je vous donne la parole là-dessus, l'un et l'autre. On voit un papier. C'est très intéressant, la correspondance. Il faut la décrypter. Tout n'est pas décrypté. Un courriel d'Epstein à Bill Gates, où il lui reproche les actions de sa femme. Il est assez ancien. Ils n'avaient pas encore divorcé. Elle n'était pas encore partie. Il paraît d'ailleurs que... C'est parce que c'est une bonne catholique, Melinda Gates. Elle a fait ses études dans un institut à Houston que je crois vous connaissez, enfin au Texas.
Vous en avez parlé, mais je ne connaissais pas.
Je crois que c'est Sainte-Marthe ou je ne sais pas. Enfin, et sa famille, qui est une famille européenne, son nom de jeune fille, c'est French d'ailleurs, Melinda Gates. On a fait une bonne catholique et elle était effrayée de voir ce que devenait sa fondation. Et justement... Epstein reproche à Bill Gates d'accorder trop d'importance à sa femme. Cette espèce de catholique, cette race-là, on ne peut rien faire avec, dit-il. La race, elle est catholique, merci beaucoup. Voilà ce qui rentre dans la tête d'Epstein de Gates.
Et si vous voulez, cette situation que l'on vit est une situation excessivement dangereuse parce qu'il y a toute une conjonction de dangers. Il y a ces élites corrompues, la politique, la presse, la justice, etc. Il y a les empires qui essayent de retrouver leur place dans le monde avec le déclin de l'empire américain. Et on sait bien que quand il y a un empire qui est en déclin, il est excessivement dangereux, puisqu'évidemment, il veut essayer de maintenir ses positions par la guerre. On a le fait que face à cette situation catastrophique, apocalyptique, qui est-ce qui va nous aider à épurer tout ça, à nettoyer les écuries d'Augias? C'est très compliqué puisque, en fait, nous sommes en guerre contre les propriétaires de l'écurie. Et nous sommes dans l'écurie. Donc, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est prier. C'est le carême, justement.
C'est le cas de ne plus payer son loyer. Vous voyez ce que je veux dire?
Non, mais c'est pour ça
que... C'est ce que nous faisons.
C'est pour ça que...
Nous les entretenons aussi.
Ce carême est très important, comme tous les carêmes, mais il arrive à un moment donné, si vous voulez, où on doit absolument s'appuyer sur ce carême et s'appuyer sur l'attitude catholique de recherche de la vérité, de la justice et de la bonté pour essayer de contrecarrer tout ce satanisme.
C'est ce que dit Jean-Dominique Michel à la fin. Il dit il nous reste surtout à prier. Et il dit aussi quelque chose. On ne va pas tout reprendre. Regardez Mais c'est grâce à vous que je l'ai vu. Et je l'ai vu hier soir. J'ai même re-regardé ce matin pour reprendre des notes. Y a deux courriels. Je vous laisse la parole l'un et l'autre tout de suite. Il y a deux courriels importants aussi dans la correspondance. C'est vraiment le cœur de l'affaire entre Epstein et Gates. Il dit dans un courriel de 2016, on n'est pas prêt pour la pandémie. On n'a pas préparé l'opération pandémique. Enfin, c'est une traduction de l'anglais, évidemment. C'est énorme. Tu fais le lien, vous le faisiez tout à l'heure. Mais nous le faisons au Nouveau Conservateur depuis notre premier numéro, qui s'appelait Covid et totalitarisme. On avait eu du nez en 2020. C'est une opération, au fond, transhumaniste. Et tout ça, c'est du transhumanisme, en réalité. et même les affaires de cannibalisme et autres, ça fait partie de la logique transhumaniste. Oui. Il faut dépasser l'homme, il faut même tuer l'homme pour créer un autre... Oui. C'est la folie messienne.
La maîtrise complète du corps humain, de la reproduction, de tout, pour être comme Dieu. C'est vraiment ce que vous disiez, Pierre, sur le satanisme. C'est vraiment la logique luciférienne, oui, où on veut être comme Dieu. Et donc, on veut créer, on prétend même être capable de faire le climat maintenant. C'est tendance.
C'est ça.
Mais voilà.
Qu'est-ce que nous avons à dire d'autre sur Epstein, mon cher Pierre?
Alors,
mon
justement, revenir à Jean-Dominique Michel et sur YouTube, quand vous tapez Jean-Dominique Michel, vous avez cette vidéo qui s'appelle Apocalypse Now, d'ailleurs. Et vous pouvez, pour vous aider à suivre cette vidéo qui est très riche en faits qui sont...
Celle de Jean-Dominique Michel.
Celle de Jean-Dominique Michel.
55 minutes.
Vous appuyez en dessous de la vidéo sur transcription et vous avez le texte. Et ça, c'est très intéressant, parce que non seulement vous entendez ce qu'il dit, et vous pouvez lire ce qu'il dit. Et on comprend mieux et on mémorise mieux, parce qu'on est face à un ensemble de faits incroyables. C'est ça qui est terrible aussi. C'est que ce sont des faits incroyables, et donc on a du mal, tout simplement, à se dire qu'on est dans la réalité.
Bon. Je ne sais pas si nous avons en ligne le père de Guibert. Je crois que oui, chaussons nos casques. Je crois qu'il écoute très sagement notre conversation. On va vous rejoindre après un court bobino, mon père. Vous êtes là?
Oui, je suis là et je vous écoute avec un très grand intérêt.
Je vous poserai peut-être une question sur ce que vous pouvez tirer de leçon de l'affaire Epstein. Un bobino pour commencer.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Mon père, François-Xavier de Guibert, je vous présentais au début de cette émission. Tout le monde vous connaît par les éditions qui ont rayonné sur Radio Courtoisie pendant des années et auxquelles je dois beaucoup. J'ai rencontré, grâce à vous et aux livres que vous éditiez, un très grand nombre de gens. Et vous êtes actuellement prêtre près de Dijon. Vous avez peut-être quelque chose à dire, parce qu'on va plutôt parler avec vous du carême, mais de l'anti-carême, c'est-à-dire de l'enfer que dévoile, comme une apocalypse. Hein. Une apocalypse, c'est aussi le dévoilement, une révélation,
oui. Hein,
l'affaire Epstein.
Oui, une révélation luciférienne.
Voilà.
Et...
C'est l'apocalypse dans les deux sens.
Apparaît comme une sorte d'apothéose, si on peut dire, d'une société qui est depuis longtemps vraiment orientée sans Dieu et même contre Dieu. Vous avez longuement parlé de Jean-Dominique Michel, et je vais vous faire une confession. Dès le début de la guerre du Covid, c'est une guerre d'ailleurs... Une personne très bien placée nous l'a dit, donc il faut le croire. Jean-Dominique Michel a été quelqu'un qui a été immédiatement une conscience éveillée, conscience libre et éveillée. Et je dois dire,
c'est un anthropologue.
Oui, tout à fait, absolument, mais l'anthropologie réaliste, car c'est bien son cas, et non pas idéologique, l'anthropologie réaliste. A permis à Jean-Dominique Michel d'avoir tout de suite une réaction de vigilance et d'intelligence. Et je dois dire, je lui dois beaucoup parce que dès le début, je l'ai suivi et j'étais émerveillé de le voir rejoint par des gens d'horizons très différents, mais qui finalement étaient tous rassemblés par le souci de la vérité et de l'humanité. Je ne serais trop encouragé, je n'ai pas lu encore cette intervention dont vous avez parlé.
Et regardez là sur un de vos petits appareils, mon père, ce n'est pas un livre cette fois.
Non, mais c'est très bien. Voilà, voilà. Et donc, je pense que d'une certaine manière, là où le crime a abondé, la grâce a surabondé, et je pense qu'actuellement, nous sommes dans un temps de grâce tout à fait particulier, parce que bien sûr, nous voyons... l'enfer à ciel ouvert, si je peux dire. On peut parler de ciel ouvert. Enfin, l'enfer ouvert devant nous avec cette affaire Epstein qui est évidemment effroyable. Et puis en même temps, il y a ces signes. Aujourd'hui, nous avons entendu une parole du Christ sur le signe de Jonas, c'est-à-dire au fond la prophétie qu'il a faite de la conversion en masse des païens à l'annonce du royaume. Et donc, ben, c'est ce que nous revoyons en ce moment avec ces conversions, ces retours à Dieu, ces demandes de baptême, inexplicables et en cela merveilleuses, parce qu'en réalité, elles sont vraiment le signe de Dieu.
Inattendu.
Inattendu, mais Dieu est toujours le maître de l'inattendu. Il nous prépare et en même temps, il nous surprend toujours. Il nous prépare pour que nous soyons disponibles pour être vraiment émerveillés de ce qu'il fait. Et ce que nous voyons actuellement, qui ne dépend ni des stratégies de pastorale, ni de tous les trucages possibles et imaginables, nous montre que finalement Dieu est maître des choses et que c'est lui qui appelle et que le moment venu, quand c'est l'heure, voilà, quand les temps sont accomplis. Et moi je pense que de même que l'Empire romain, enfin, l'Antiquité était profondément décadente, enfin si le Christ n'était pas venu, que serait devenue l'humanité? Elle aurait sans doute disparu, au fond. Mais le Christ est venu à un moment, au moment stratégique, où finalement il était indispensable qu'il vienne. Parce que le Christ est nécessaire à l'histoire de l'humanité. Sans le Christ, l'humanité aurait sans doute basculé dans la folie.
Oui. Ce qui nous guette encore, et d'ailleurs il est significatif que la vidéo dont nous parlons et reparlons, comme a donné Pierre Lours, de Jean-Dominique Michel, qui est un citoyen suisse très scrupuleux, formidable et sans doute très sensible, s'achève par des pleurs, l'appel à la prière, il s'impose le silence et il se met à pleurer après avoir fait des démonstrations sur Epstein très bouleversante. Et un signe de renouveau, c'est-à-dire un monde meurt, un autre renaît. Il ne s'agit pas de naissance, mais de renaissance. Le monde est peut-être aussi un cycle, un ensemble de cycles. C'est le renouveau du carême. Vous l'avez vu autour de vous. J'ai dit tout à l'heure que je le vois à Saint-Germain-des-Prés, le mercredi décembre, il y a 8 jours. C'est absolument plein, 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 plein. Je pense même qu'il y a des gens qui étaient debout à 9h du soir.
Et on peut le dater d'il y a 10 ans déjà, peut-être 2 ans, 3 ans, mais pas beaucoup plus.
Oui.
Comme prêtre de paroisse, j'ai eu l'occasion de faire de célébrer le mercredi des Cendres l'an dernier, dans une toute petite paroisse où on m'avait dit, mais écoutez, il y aura très peu de monde, etc. D'habitude, il y a très peu de monde, il y aura très peu de monde. Alors, donc, on était dans une petite chapelle. Et finalement, cette petite chapelle, elle s'est révélée tout juste capable de contenir tous les gens qui étaient là. Et j'avais été très, très ému de voir quatre jeunes, manifestement étudiantes ou fin d'études ou jeunes pros, et qui étaient là, manifestement très, très participantes. Et ça changeait tous les plans, vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
C'était merveilleux et je sais que cette année, ça s'est confirmé, largement confirmé. Et donc tout ça est très...
Comment le comprenez-vous, mon père? Parce qu'il y a des renouveaux de tous les côtés, le pèlerinage, l'assistance dominicale croît, mais rien n'est plus spectaculaire dans ce renouveau que le retour du carême.
Oui, et puis les cendres sont quand même un geste magnifique.
Oui.
On voit bien qu'en fond, le christianisme, c'est un réalisme, il y a une anthropologie très concrète, très simple, immédiatement perceptible, au fond, hein, dans ce geste des cendres, qui reprend donc des gestes qui étaient vraiment dans la tradition hébraïque, mais c'est notre tradition, car on ne le redira jamais assez, nous sommes spirituellement hébreux, hein, comme le pape Pie XI l'avait déclaré. Et donc, ce geste des cendres, c'est un geste très simple, mais extrêmement fort. Et alors, je vais vous faire une
petite confidence. Tu es poussière et tu redeviendras poussière, c'est ça le sens aussi de la cendre.
Oui, je vais vous faire une confidence. Alors, il y a ces deux phrases qu'on peut prononcer en marquant le front des cendres. tu es poussière et souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière, et puis aussi convertis-toi et crois à l'Évangile. Alors moi, j'ai dit justement aux gens avec lesquels je célébrais, pour lesquels je célébrais, que j'allais dire les deux. Parce qu'au fond, il n'y a pas de raison de ne se cantonner qu'à l'une, car les deux se complètent, au fond. Dépouille-toi du vieil homme et convertis-toi et reçois cette vie que seul le Christ peut te donner. Dans un monde de ténèbres, il est la lumière et choisis la lumière. Reçois la lumière, voyez. Je crois que c'est très important de dire les deux phrases, deux invocations.
La poussière est encore plus importante, parce que je pense à ce que nous disions tout à l'heure.
Elle est importante, mais il faut sortir de la poussière. Oui. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière, et que le Christ te fera sortir de la poussière.
C'est la phrase que n'ont jamais entendue Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein et leurs victimes, d'une certaine façon, même leurs complices sont leurs victimes. Ils ne savent pas ça. Ils sont dans la déraison et dans la démesure.
Mais tous ces gens nous plongent dans une obscurité effrayante. Oui. L'obscurité de la mort, précisément. Oui. Mais le Christ est venu pour éclairer tout homme venant en ce monde. Et d'une lumière que rien ne peut éteindre. Je dirais, y compris, parce qu'il faut bien prier pour eux aussi, y compris tous ces gens qui sont des meurtriers des âmes, en fait. Parce que c'est bien ça, ce sont des assassins des âmes, d'abord, des gens qu'ils ont pervertis, qu'ils ont fait rentrer dans leur propre nuit. Alors, c'est pour ça que je crois que la phrase sur la poussière, hein, tu es poussière et tu retourneras en poussière, cette conscience qu'en fait notre vie terrestre est extrêmement limitée, qu'elle n'a pas d'autre but que justement de nous conduire à Dieu.
Elle ne donne pas droit à la démesure, et surtout pas à la démesure de la jouissance et de la prédation.
Mais évidemment, voilà. Évidemment, parce qu'elle est une négation de la création, et oui. Évidemment. Et d'ailleurs, rien que la morale naturelle, indépendamment même de la révélation, la morale naturelle est quand même ce petit GPS que tout homme reçoit, je dirais, à la naissance, et qui est si malmené par notre époque, eh bien, nous rappelle qu'au fond, il y a un ordre naturel et que ce n'est pas en vain qu'on peut se dresser contre l'ordre naturel. L'affaire Epstein... Elle est une perversion dans l'ordre de la conduite des individus, mais ce que la Constitution française et la République française s'apprêtent à faire, au fond, c'est une perversion dans l'ordre de la légalité, de la vie collective.
Et de l'infraction à la nature. Venons-en à l'autre aspect du carême. Alors, il y a les cendres dont nous venons de parler et leur sens. Il y a aussi le carême à proprement parler, qui est le jeûne. Et voilà, peut-être qu'il y a un appel au jeûne, il y a une orthopraxie que l'Église a longtemps négligée et qui est réclamée par ces jeunes, car ils sont souvent très jeunes, les jeunes que j'ai vus, en tous les cas à Saint-Germain-des-Prés, pour les cendres.
Parce qu'ils sont dans une société dans laquelle tous les repères et toutes les règles ayant disparu pour les adultes, ils se trouvent dans une sorte de vide et ils recherchent effectivement des points d'appui. Ils ont bien raison, parce qu'ils y ont droit, au fond. Toute société donne à ceux qui vivent des points d'appui, des repères. Et donc, ils cherchent des repères, et c'est un besoin naturel de l'homme.
Et dans la frugalité, exigée par le carême, il y a très certainement un antidote à la société de la consommation, de la prédation, de l'hyperconsommation, qui écœure les esprits.
C'est évident, nous sommes saturés, nous sommes écœurés, dégoûtés, bien sûr. Alors, nous disons ça, mais en même temps, il y a tout de même un nombre de millions de personnes qui meurent de faim à côté de toutes ces débauches. Donc, il y a vraiment là un scandale qui doit éveiller les cœurs et les consciences, ça c'est sûr. Hein. Le jeûne est certainement... une manière de discipliner notre corps. Ça montre que, vous comprenez, le christianisme, c'est une anthropologie réaliste, une incarnation. Donc nous ne sommes pas de purs esprits, nous sommes aussi chair. Hein. Et cette chair n'est pas méprisable, au contraire. Elle est destinée à être tout entière mise au service de Dieu, comme un bon instrument.
Il faut commencer, par faire en sorte que sa graisse n'encombre pas l'esprit. Il faut libérer l'esprit, notamment pour accompagner les jours qui nous séparent de la résurrection. Il faut libérer l'esprit de la pesanteur du corps, en réalité. C'est, oui. c'est ça, là, le sens du carême. Mmh.
Ce n'est pas suffisant. Il y a un ami qui me disait en rigolant... Il y a un ami qui me disait en rigolant « Absence de cochon ne fait pas forcément un bon larron. »
Oui, oui. Non, mais c'est tout à fait vrai. Mais le carême, les 40 jours, hein, c'est quand même un sens biblique très très fort. C'est le sens d'une préparation. Une préparation pour une rencontre avec Dieu. Alors, les 40 jours au désert du Christ, les 40 jours de Moïse au Sinaï... c'est les 40 ans de traversée du désert pour le peuple hébreu, c'est quelque chose de très très fort, parce qu'il faut retrouver le sens du temps. Nous sommes dans un temps qui est linéaire et qui s'écoule d'une manière tout à fait indistincte. Le christianisme dit que la vie humaine a besoin justement d'étapes, de moments, et de ce point de vue-là, les 40 jours sont véritablement une redécouverte du temps pour Dieu. Et donc, c'est le temps d'une rencontre tout à fait privilégiée avec Dieu. Le premier but du jeûne, ce n'est pas le jeûne. Le premier but du jeûne, c'est de discipliner notre corps pour qu'il soit, au fond, rendu libre, libéré de ses tropismes addictifs.
Oui.
Pour finalement, d'une manière véritablement libre et décidée, se tourner vers Dieu.
Il y a la dialectique du bas et du haut. Il faut supprimer la pesanteur pour retourner à la grâce, c'est-à-dire vers la hauteur, l'élévation. Si je vous disais l'un comme l'autre, à vous trois, je vais commencer par Guillaume, en traître. En quoi consiste le baptême pour vous et pour votre famille ? C'est indiscret ?
Non, pas du tout.
Il y a aussi une diététique dans cette question.
Le baptême ou le carême ?
Le carême, j'ai dit baptême, c'est idiot.
Le carême est une préparation au baptême, donc non, c'est pas absurde. Mais pour moi, le carême, c'est vraiment les trois pôles. C'est-à-dire, il y a le jeûne, évidemment, c'est ce qui sort le plus évidemment. Mais à côté de ça, en fait, le jeûne doit ouvrir à l'aumône, c'est-à-dire à l'ouverture à l'autre, et à la prière, qui est à l'ouverture au tout autre. Et si le carême n'est que le jeûne, ou que l'aumône, ou que... En fait, ça ne tient pas. On a besoin absolument des trois, et sans les trois, on ne peut pas se préparer, il me semble, à la résurrection, qui est la prise... Enfin, tout notre corps, y compris tout notre être, y compris notre corps, est appelé à la vision béatifique.
Eh bien, pour moi, si vous voulez, vous savez que je suis un ancien militaire et j'aimerais en fait qu'un observateur qui aurait à noter en quelque sorte mon carême, ma petite vie pendant ce carême, puisse écrire ou puisse dire « peut mieux faire, mais service satisfaisant, car aime ». Pour moi, le carême, si vous voulez, c'est justement mieux aimer. Mieux aimer Dieu, mieux aimer son prochain, mieux s'aimer aussi.
On jeûne car j'aime.
Voilà.
Car aime. Oui.
Très joli.
Mon père, votre carême, parce que quelqu'un me disait, mais on ne nous demande pas grand-chose, sauf le mercredi des cendres et le vendredi saint, on nous demande de jeûner, mais le reste du temps, il reste 38 jours.
Je vais vous dire, rien ne nous empêche, et tout nous incite à... Au contraire, discipliner notre vie, reconstruire notre vie, reconsidérer notre vie à l'aune des trois grands piliers dont, je crois, Guillaume de Thieulloir a fait mémoire tout de suite, hein, le jeûne, l'aumône, la prière. Mais tout ça n'a pas d'autre but que de nous tourner vers Dieu. Ça, c'est le plus important. Et je pensais, pour conclure, faire une référence à la lettre de saint Paul aux Romains, et qui nous dit, qui nous supplie de nous laisser réconcilier avec Dieu. D'abord, laissez-vous réconcilier avec Dieu, laissez-vous faire par Dieu. Et donc, mettez rendez-vous disponible pour lui. Et qui conclut en « Je vous exhorte, frère, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, en sacrifice saint, agréable à Dieu. » Car au fond, le but du carême, c'est de nous offrir à Dieu.
Et aucun de nous trois, aucun de vous trois ne me parlait de l'aspect diététique des choses, qui n'est quand même pas secondaire. Vous vous privez de quoi? Vous privez pour ces nouvelles.
Vous pouvez vous priver d'abord de ce qui vous fait plaisir et qui n'est pas vraiment utile.
Ce qui vous fait trop plaisir et qui vous attache trop à ce monde, voilà.
Combien de notre chose... Alors, c'est ce que dit saint Paul, pour terminer. Hein. Donc... Vous offrir en sacrifice saint agréable à Dieu, c'est le culte spirituel que vous avez à rendre.
Oui.
Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc, c'est vraiment un retournement. Notre monde pense qu'on peut vivre sans Dieu.
Oui, mon père, mais notre monde pense qu'on...
Notre monde prétend qu'on peut vivre sans Dieu. Le carême nous rappelle que nous ne pouvons vivre qu'avec Dieu et que c'est un temps privilégié pour justement le redécouvrir.
Écoutez, répondons à la demande de ceux qui se tournent vers l'Église. Je pense qu'elle a quelque chose à voir avec l'abus de consommation. Et vous dites, vivre... c'est s'avancer vers Dieu, mais c'est en tous les cas ne pas s'abaisser, s'appesantir, devenir lourd par la consommation esthétique.
Oui, bah, bien
esthétique,
sûr. Oui.
Le jouir ses entraves, et spécialement à table. Voilà, la bouffe.
Bien sûr.
Mais pas que à table. On est au moins aussi addict à nos téléphones portables, aux vidéos, à ceci, à cela. Moi, je pense que le jeûne, en tout cas, j'essaye de jeûner de nourriture, mais j'essaye aussi de jeûner de téléphone. Ça me paraît presque aussi important parce que. Un détachement, exactement. Moi, je pense qu'on ne rencontre Dieu que dans le désert et que donc il faut arriver à se décrocher. Et j'en parle avec un peu d'humilité parce que c'est autrement plus difficile que de se priver d'un repas. Enfin,
puisque personne n'en parle, moi je vais dire mon jeûne, c'est je saute un repas sur quatre, ben c'est pas si simple, par exemple.
Oui,
je
vois qu'il est
assez content que nous approchions de 17h, parce que 17h c'est pas loin de 18, qui est pas loin de 19, et comme j'ai sauté le déjeuner, je vais pouvoir me mettre à table assez tôt. Bref, l'alcool, le tabac, voilà des dépendances qui nous rattachent à la bassesse de ce monde et qui nous empêche de nous élever. Et je crois qu'il y a chez les jeunes une demande aussi de conseils diététiques. D'ailleurs, ils m'en demandent de quoi on se prive. Alors, mon père, de quoi nous privons-nous?
Du superflu. Ah,
on peut se priver du superflu. On peut, sur l'alcool, faire un effort particulier. C'est pas marrant de ne jamais prendre de vin à table. C'est vrai que c'est quelque chose de méritoire. Et de s'interroger sérieusement sur ce qui nous est vraiment nécessaire pour notre alimentation. Oui. Et quand on regarde nos menus, je pense qu'en fait, on peut certainement remettre en cause beaucoup de choses.
Oui, absolument.
Alors,
le superflu, comme dit Pierre Lourd, se priver du superflu,
voilà,
ça ne vaste pas grand-chose.
Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui, en fait, peuvent être tout à fait supprimées. Dont on n'a pas vraiment besoin.
Que chacun se regarde vivre et se prive de ce qu'il attache.
Mais chacun peut regarder dans son assiette en se posant la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire que tu manges ça aujourd'hui? Voilà. Moi, je pense que ce qui est vrai, c'est qu'on a pris des habitudes d'abondance et de festives qui sont absolument incroyables, parce qu'en fait, nos repas sont quand même des menus... extravagant
oui.
par rapport
il y a du dégoût dans le il y a peut-être le dégoût de l'obsession du Ramadan. Bon, en passant, le jour d'entrée en carême, le journal de France Inter, je crois que je l'ai dit mercredi dernier, parlait du Ramadan, c'était le même jour, mais pas du tout du carême. Il y a aussi le dégoût de l'omniprésence du Ramadan, et puis le dégoût de la consommation, de la grosse bouffe. Il y a aussi ça, il y a du dégoût, comme vous dites.
Oui, non, mais c'est évident que d'une certaine manière nous sommes saturés de consommation dont nous sentons bien qu'elles sont en fond vides.
Vides.
Ne conduisent à rien.
C'est sur ce mot que nous nous quittons. Mon père, vous m'avez fait la promesse de me signaler votre prochain passage à Paris. Ce sera l'occasion d'une émission avec vous pour le coup en chair et en os, car nous voulons vous revoir, père François-Xavier de Guibert.
Eh bien, écoutez, merci et bon carême à tous.
Bon carême à vous.
À bientôt, nous allons dire bon carême à tous. Vous avez peut-être un mot à ajouter, Pierre-Guillaume ?
Pierre-Guillaume, c'était quelqu'un d'autre.
Excusez-moi.
Non, mais écoutez, je trouve que c'est effectivement une façon de saine subversion que de faire le carême et de résister à l'ambiance de société de consommation qui, effectivement, est un peu insupportable et saturante pour nous tous.
C'est l'aspect subversif de l'Église.
Oui, absolument. C'est une contre-culture.
Il n'est pas mince. Pierre Lourdes ?
J'agrée.
Très bien. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner au Nouveau Conservateur, bien entendu. Je parlais du numéro de février sur les élections municipales. Le prochain a lieu sur la démographie. J'ajoute, à propos de Quentin, je veux finir avec lui, que si je citais l'article de Valentin Gore sur la participation à la manifestation à l'hommage de samedi dernier à Lyon du sénateur Étienne Blanc, c'est qu'il disait « Ce jeune homme n'était pas fasciste, il était chrétien et nationaliste. » Et il assume tout sénateur LR qu'il est, le mot nationaliste, en faisant référence, bien entendu, à Peggy Barrès et autres. Voilà. Merci beaucoup. À mercredi prochain, chers auditeurs. D'ici là, n'oubliez pas, Domine Sanctam Facalium.
Vous venez d'entendre les répliques du Nouveau Conservateur dirigé par Paul-Marie Couteau, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 25 février 2026 de 16h à 17h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.